en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
La séance est ouverte. Je mets à l'approbation du procès-verbal la précédente séance du lundi 4 mai 2015. Est-ce qu'il y a des remarques là-dessus, des critiques ? Personne ? Donc le procès-verbal est approuvé. Je donne la parole au secrétaire perpétuel pour la lecture de la correspondance.
Merci beaucoup, Madame le Président. Donc on demande d'être excusé aujourd'hui. Monsieur Boré Casanova Colon Damien, Madame Lulon Saint-Ni, le cardinal Chegaray, Monsieur Guillaume Israël, le rabbin Corsia, Monsieur le roi Ladurie, le vilain, Dorcival, Poncelet, Théré, Tirol, Trichet, Tullard, Vacheron et Prosper Veil. C'est beaucoup.
Merci.
On voit que les ponts se prolongent.
Oui, c'est une période difficile. Alors, nous avons quelques dépôts d'ouvrages. Je commence par donner la parole à Monsieur Soutou d'abord, et puis ensuite Monsieur Saint-Sernin.
Madame le Président.
Merci beaucoup.
Non, allez-y. Bon, écoutez, merci beaucoup, cher confrère. Madame le Président, je vous remercie. J'ai l'honneur de déposer, je serai concis, hein, 3 ouvrages sur le bureau de notre académie. D'abord, une édition pour la première fois intégrale en français, avec une importante préface de notre confrère Monsieur Mauricio Serra, une édition donc du journal politique du comte Ciano, qui était ministre des Affaires étrangères de Mussolini, comme vous le savez. C'est un document tout à fait passionnant à plusieurs titres. Bon, d'abord, son auteur est ce qu'il est, je n'y reviens pas, mais il n'est pas bête. Donc sa lecture est, malgré tout, le reste, tout à fait intéressante. Et au fond, un de nos confrères russes, l'équivalent de Sciences Po à Moscou, a perdu son poste en moins de 24 heures pour avoir comparé M. Poutine à Hitler et l'Anschluss en 1938. Je pense que la comparaison aurait été plus juste avec le comte Ciano, dont le cynisme et l'opportunisme sont encore supérieurs à ceux du Führer, me semble-t-il. Bon. Donc un document historique exceptionnel. D'autre part, comme vous le savez, les études stratégiques sont en pleine renaissance. Et je voudrais vous signaler 2 ouvrages. L'un du capitaine de vaisseau de la marine suédoise, Lars Vedin, qui a d'ailleurs obtenu il y a 3 ans un prix de notre académie, consacré aux stratégies maritimes au XXIe siècle, sous titre « L'apport de l'amiral Castex ». C'est tout à fait intéressant, c'est une réflexion en profondeur sur la place de Castex comme stratège en histoire de la pensée stratégique et la validité de sa réflexion aujourd'hui, qui est plus forte, plus grande qu'on aurait pu le penser à première lecture, étant donné l'époque à laquelle Castex avait écrit ses œuvres, tout simplement parce qu'il s'était élevé au-dessus de la stratégie navale à une notion de stratégie globale qui correspond tout à fait aux recherches actuelles. Et dans un genre différent, parce qu'il s'agit d'un ouvrage collectif sorti en librairie tout récemment, « Guerre et stratégie, approche, concept », ouvrage collectif avec les meilleurs auteurs actuels, co-dirigé par messieurs Taïa, Henrotin et Olivier Schmitt, d'une lecture tout à fait passionnante, parce qu'ils réunissent, cet ouvrage réunit les éléments essentiels de l'histoire de la pensée stratégique, les concepts philosophiques et méthodologiques et sociologiques essentiels de la stratégie, avec l'évolution concrète de celle-ci jusqu'à l'époque la plus actuelle. C'est davantage peut-être un manuel, mais un manuel de très très haut niveau qui fait effectivement pour être mis dans toutes les mains. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Monsieur Saint-Sernin.
Merci beaucoup, Madame le Président. Je voudrais dire quelques mots du livre d'Alain Besançon, « Problèmes religieux contemporains », qui vient de paraître aux éditions de Fallois. Il compte 9 chapitres, dont certains reprennent des thèmes de conférences ou d'exposés antérieurs. C'est un ouvrage érudit et incisif, dans lequel transparaissent les inquiétudes de l'auteur. Ne pouvant faire le tour complet de ce livre si riche, j'en retiendrai quatre points. Premièrement, l'idée que le léninisme ne peut être bien compris que par ceux qui ont une connaissance intime de la Russie et de sa langue, ils prennent la mesure de la perversité des persécutions que le régime a engendrées. Deux, la distinction entre le monothéisme des Juifs et des chrétiens et celui des musulmans. Alain Besançon sépare la religion et la croyance de la foi. Les musulmans sont religieux, mais ils n'ont pas la foi au sens juif et chrétien de l'alliance et de l'amour de Dieu pour les hommes. Trois, la conviction que les chrétiens ont perdu le sens de l'originalité de la tradition biblique judéo-chrétienne et que de ce fait, ils sont vulnérables, en particulier à l'islam, et cherchent naïvement avec lui une connivence doctrinale impossible. Quatrièmement, enfin, les clercs aujourd'hui n'ont plus comme autrefois le sens de l'étude. Il serait impossible de renouveler la prouesse de l'abbé Migne, se faisant aider par des prêtres pour la traduction des 217 volumes de sa patrologie. De même, Pierre Duhem ne bénéficierait plus de l'aide de religieux et de religieuses pour les traductions qui figurent dans son système du monde. L'auteur juge cette régression de l'étude dangereuse car le judaïsme et le christianisme sont complexes et font appel à l'intelligence, fides querens intellectum, selon la formule d'Anselme de Canterbury, inspirée des 10 homélies sur la première épître de saint Jean de saint Augustin.
Merci. Merci beaucoup. Nous avons encore des dépôts d'ouvrages. Je crois que M. de la Rosière voulait intervenir et puis après c'est...
Merci, Madame le Président. Je dépose sur le bureau de l'Académie un ouvrage de Thierry de Montbrial intitulé « Une goutte dans l'océan » paru chez Albin Michel au début de cette année, 357 pages. Il s'agit d'un journal qui s'égrène de 1993 à aujourd'hui. Comme le veut le genre, on y trouve l'écume des jours, l'écho de conversations, de lectures, d'émissions télévisées, de visites académiques, beaucoup de visites académiques, de voyages. Mais là ne réside pas l'intérêt de ce gros volume. Trois choses m'ont frappé à sa lecture. Premièrement, la curiosité intellectuelle de l'auteur, très ample et toujours en éveil. Monsieur de Montbrial s'intéresse à de multiples sujets, la littérature moderne, en particulier Stefan Zweig, Ionesco, Shusaku Endo et bien d'autres, le cinéma, la philosophie, notamment sous l'angle de l'hindouisme, du bouddhisme, mais pas seulement, et bien sûr ses chères mathématiques. Deuxièmement, le sens et le goût de l'interrogation philosophique, avec comme fil conducteur la difficulté de la connaissance de soi et du monde extérieur par le sujet pensant, ainsi que celle, c'est-à-dire la difficulté de la conscience de l'espace-temps. Les pages sur Ionesco, par exemple, et sa conception de l'absurde valent le détour. Enfin, troisièmement, l'intérêt pour la question de Dieu et des fins dernières. Cette question revient quasiment à chaque page. Les entretiens suivis entre l'auteur et le père Carré, les visites aux différents pontifes, l'équipée du Mont Athos, les références à Pascal, les considérations sur les rapports entre les différentes religions monothéistes, font partie de cette quête de sens qui habite Thierry de Montbrial et qui figure du reste en sous-titre du livre. Pour conclure, je citerai cette jolie formule inspirée de la lecture du journal d'André Gide. « J'éprouve, dit Thierry de Montbrial, une attirance croissante pour ce type de littérature au fil des jours, en forme de matière brute. Certains hommes, ne pouvant vivre pleinement leur vie sans leur plume, entretiennent ainsi, plus ou moins artificiellement, un dialogue avec eux-mêmes. Merci.
Merci. Monsieur Gattaz, je crois que vous vouliez parler aussi.
Merci, Madame la Présidente. Je voudrais présenter à nos confrères le livre, le dernier livre de Jean-Louis Beffa, Les clés de la puissance.
Oui.
C'est un livre au titre effectivement présomptueux, mais l'auteur élève ce défi annoncé dès le départ dans un style cursif avec des phrases qui sont courtes et très fortes. Avec une segmentation clairement annoncée, Jean-Louis Beffa nous explique dans une forme que je trouve lumineuse l'état des puissances potentielles du monde d'aujourd'hui et surtout du monde de demain, avec cette coopération morose entre la Chine et les États-Unis et cette résignation au partage accepté par la plupart des pays et des continents. Une fresque parfois un peu effrayante par le manque d'ambition, cette ambition de croissance et de puissance qui, vous le savez, tenaille tous les créateurs d'entreprises, mais ce n'est pas le cas des nations. Jean-Louis Beffa est un grand manager, qui est francisé, vous le savez tous, de façon, je pense, définitive, un grand manager international qui a parcouru le monde et a tenté d'y implanter ses produits. Il sait de quoi il parle et son constat est peu contestable. La domination mondiale est assurée par des États-Unis toujours performants, quoi qu'on dise, et une Chine explosive, certes, mais qui ne semble pas, pour l'instant, semble-t-il, devenir hégémonique sur le plan militaire. L'Europe, qui aurait pu s'imposer par ses atouts et ses talents, ne cesse de reculer. Et là aussi, la résiliation risque de s'imposer peu à peu. Les autres pays et continents, qui sont cités en détail par Jean-Louis Beffa, ont des atouts, certes, mais ils sont insuffisants, d'après lui, pour leur assurer une place de premier plan. Un livre clair, documenté, à vision stratégique, facile à lire et à relire.
Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a un dépôt d'ouvrage ? Alors, cher Jean-François Mayer, vous êtes historien. Vous dirigez l'Institut Religioscope, qui est dédié à l'étude des religions et des sectes. Enfin, vous êtes l'un des quelques spécialistes européens des sectes, il n'y en a pas énormément, et vous passez votre temps à observer dans le monde entier les sectes les plus diverses, au fond. Vous étiez venu, je vous avais invité à faire une conférence au Bernardin en 2012, 15 jours avant l'Apocalypse, vous vous souvenez, l'Apocalypse qui n'a finalement pas eu lieu, et je me rappelle aussi que lorsque le dit Breivik en Norvège avait tué, je crois, 77 personnes, si je ne me trompe, vous m'aviez immédiatement envoyé tout un tas de documents sur ce personnage que vous suiviez déjà avant même qu'il se fasse remarquer de cette façon. Donc ce sont des groupes qui parfois sont presque un peu hilarants, vous n'êtes pas dépourvu d'humour, mais ce sont des groupes qui sont souvent dangereux et qui, de toute façon, sont intrigants. Donc, nous sommes heureux de vous entendre et je vous laisse tout de suite la parole.
Je vous remercie, Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames et Messieurs, chers amis. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça n'est pas de ces groupes à proprement parler que je vais vous entretenir, mais plutôt de la façon dont les États et les sociétés réagissent en Europe, dans nos États européens de droit, en Europe occidentale, face à ce type de groupe. En effet, la question, c'est de savoir si des groupes religieux minoritaires, dont les adhérents embrassent des doctrines et des pratiques qui les distinguent plus ou moins nettement de celles de la majorité de leurs concitoyens, si ces groupes peuvent représenter un danger pour des individus, pour la société, pour l'ordre public, la notion d'ordre public est souvent évoquée quand il s'agit de groupes de ce genre, voire pour l'État. Et leur présence et leurs activités demandent-elles l'attention, voire l'intervention des autorités ? Et ces questions, je suis historien, ces questions ne sont ni nouvelles ni surprenantes. Même pour nous limiter, bien sûr, à l'histoire de l'Europe contemporaine, l'arrivée de nouveaux acteurs dans le champ religieux religieux a plus d'une fois entraîné des interrogations et des controverses. L'historien qui va explorer des fonds d'archives ne s'étonne pas d'y trouver, dans des dossiers établis par des services de police ou par d'autres organes de l'État, des rapports ou des informations sur de petits groupes dans le cadre de cette observation de ce qui se passe dans la société. Et les questions posées étaient parfois proche de celle que nous rencontrons à une époque plus récente. Les soupçons aussi. J'aime toujours bien rappeler un épisode que j'avais étudié dans les années 1880, dans plusieurs cantons suisses, les réunions de l'armée du salut furent passagèrement interdites par les autorités cantonales en raison des troubles qu'elles suscitaient et les critiques qu'on pouvait lire dans les journaux de l'époque, que j'ai dépouillées attentivement, étaient étrangement semblables jusqu'au vocabulaire utilisé à celles que nous avons entendues dans le dernier quart du XXe siècle à propos de mouvements très différents. Et donc l'exploration des fonds d'archives, bien sûr, nous fournirait bien des exemples de ce genre. Il y a de longues années, encore étudiant, j'avais passé de plaisantes journées aux archives départementales du Rhône pour y trouver les traces d'activités de groupes religieux non conformistes du XIXe siècle. Et dans les années 1850, par exemple, plusieurs dossiers évoquaient les activités de mouvements de réveil protestants, c'était l'époque de la floraison notamment d'églises libres protestantes et de mouvements dissidents des formes majoritaires du protestantisme, ces mouvements de réveil qui sont bien sûr les ancêtres de ces évangéliques dont Sébastien Fatt vous a récemment parlé, je crois. Et plus que leur doctrine, à vrai dire, c'était leur énergie missionnaire et les subventions reçues de sociétés étrangères qui retenaient l'attention et qui suscitaient la méfiance. Vous savez, la question du prosélytisme, d'une part, la question de groupes comme possibles chevaux de Troie d'influences étrangères, ça n'est pas nouveau, vous trouviez déjà cela au XIXe siècle. Une lettre du 17 avril 1858 à la Sûreté Générale reconnaît l'honorabilité des dirigeants évangélistes, c'est le terme, l'adjectif évangéliste qui est utilisé, mais ajoute « Je ne puis dissimuler néanmoins qu'ils portent en général dans la profession et la propagation de leur doctrine une ardeur souvent dangereuse. » Donc c'est ça, l'ardeur un peu trop dangereuse dans la propagation de doctrines religieuses qui ne sont pas conformes à celles de la majorité de la population. Il y a quelques années, un historien allemand a consacré une thèse entière au traitement d'un seul mouvement religieux par la police de Leipzig durant une période de 10 ans avant la Première Guerre mondiale. Un mouvement d'ailleurs assez pittoresque, vous qui aimez les groupes un peu pittoresques que vous évoquiez tout à l'heure, c'était un mouvement que certains d'entre vous ont peut-être croisé il y a des années, qui était Masdaznan, un mouvement aux prétentions néo-zoroastriennes. Il y avait même quelque part au boulevard Saint-Germain des éditions mazdéennes. Le groupe n'avait guère de rapport réel avec le zoroastrisme et il n'en reste aujourd'hui que des cercles déclinants et faiblement organisés. Mais il n'en allait pas de même à Leipzig en 1910. Masdaznan était accusé de tromperie, d'immoralité, de manipulation psychologique, de destruction des familles. Et les critiques étaient adressées à Masdaznan tant par d'anciens membres que par des familles inquiètes des conséquences du régime alimentaire prôné par le mouvement. Mais malgré toutes ces critiques, l'État se cantonne d'abord dans un rôle passif d'observateur. Son souci par rapport aux sectes, c'est avant tout d'éviter toute atteinte à la paix confessionnelle ou infraction. Des mesures sont finalement prises, mais c'est intéressant de voir qu'il n'y a pas une véritable politique des sectes. Cela s'intègre dans l'observation, une attention prêtée à des mouvements variés, politiques et sociaux, qui pourraient présenter des défis pour la société. Alors, un siècle plus tard, la situation que nous observons, quand il est question de sectes en Europe, présente à la fois des ressemblances, des continuités, à commencer par les traits récurrents de certaines critiques, mais aussi des différences. Et c'est ça ce qui va m'intéresser maintenant, c'est qu'est-ce qui a donc changé au cours de la seconde moitié du XXe siècle, alors même que la sécularisation progressait. Dans les années 1950 ou 1960 en France, nous pouvions observer, je dirais, deux types d'approches des groupes qualifiés de sectes. D'une part, vous aviez certains milieux catholiques, attentifs au succès relatif, selon les termes du père Chéry, en dominicain, au succès relatif de mouvements chrétiens ou issus du christianisme, mormons, témoins de Jéhovah, pentecôtisme, et qui ont dressé un état des lieux et en tiraient des leçons pour le travail pastoral. Puis d'autre part, il y avait des reportages journalistiques qui proposaient une description des sectes comme groupe pittoresque d'aimables farfelus à l'image des divertissantes Nuits secrètes de Paris de Guy Breton en 1963. Il y avait bien sûr de temps en temps des polémiques ou des affaires judiciaires qui pouvaient surgir. Par exemple, dans les années 50, lors de trois morts d'enfants faute de soins médicaux chez les disciples de Georges Roux, décédé en 1981, dit le Christ de Montfavet, les parents durent en répondre devant des tribunaux et ces affaires suscitèrent quelques émotions dans l'opinion publique. Dans d'autres pays, il y eut aussi d'autres cas où les actions d'un groupe attirèrent l'attention des autorités. En 1969, par exemple, au Royaume-Uni, il y a une enquête sur la pratique et les effets de la scientologie, et oui, 1969, sur les pratiques et les effets de la scientologie par Sir John Foster, membre du Parlement, à la suite d'une demande du secrétaire d'État pour les services sociaux. Un autre sujet de friction pouvait bien sûr toucher des groupes dont les croyances entraînaient le refus du service militaire, à une époque où celui-ci était bien sûr obligatoire, et donc l'objection de conscience conduisit de nombreux témoins de Jéhovah en prison dans plusieurs pays d'Europe durant des années. Mais il y avait une différence, avec la situation actuelle. Les églises historiques s'intéressaient au phénomène des sectes en tant que défi pastoral, elles les étudiaient de façon critique dans une perspective assez classique d'apologétique. Le mot secte, quand même, avant d'être repris par la sociologie puis d'autres discours, est d'abord un concept théologique. Mais les États de droit européens ne percevaient pas les sectes en général comme un tout, comme un défi social ou politique, d'autant plus que le terme est bien sûr, et le reste, sans valeur juridique. Ils pouvaient prêter attention à des groupes, à des membres de ceux-ci, mais toujours en tant que cas spécifique, en tant que groupe individuel, beaucoup plus que comme imprécise catégorie, embrassant du point de vue de l'État de façon préoccupante une variété de mouvements sans le moindre lien entre eux. Alors, le contraste, c'est bien sûr la situation que nous observons actuellement. Il y a en France aujourd'hui, comme nous le savons tous, une mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires sous l'autorité du Premier ministre qui a succédé en 2002 à une précédente mission interministérielle de lutte contre les sectes. Le site de cet organisme d'État explique ce qu'est une dérive sectaire, comment la détecter ou la déceler. En Belgique, un centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles a été créé par une loi de 1998 et institué auprès du Service public fédéral justice, centre indépendant, mais dont les membres sont désignés par la Chambre des représentants. Dans plusieurs pays européens, des commissions parlementaires ou d'autres organismes officiels ont publié des rapports sur les mouvements qualifiés de sectes, même si le terme lui-même est souvent évité dans la terminologie officielle. Et enfin, ces questions ont fait l'objet de débats, de rapports, dans le cadre du Parlement européen et de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Alors, cela s'expliquerait-il par l'apparition de nouveaux groupes ? En partie, c'est vrai, nous le verrons, c'est l'apparition de nouveaux groupes. C'est un déclencheur. Mais ce qui retient l'attention, c'est qu'est intégré dans la perspective, sont intégrés dans la perspective, également des groupes qui se trouvaient déjà présents depuis plus longtemps. Les témoins de Jéhovah sont un cas atypique. Si nous lisons, par exemple, les données statistiques sur les groupes sectaires en France publiées sur le site de la Miviludes, sans donner la liste des groupes dont il s'agit, il suffit manifestement d'en retirer les témoins de Jéhovah pour diminuer les statistiques de moitié. Cela suggère donc qu'il ne s'agit pas seulement d'un nouveau phénomène, mais aussi peut-être de nouvelles perceptions de certaines questions à un moment donné. Et ces perceptions, bien sûr, continuent d'évoluer. La situation que j'observe à l'heure actuelle n'est pas figée, elle change, elle se modifie. Alors comment en sommes-nous arrivés là ? Le point de départ, bien sûr, c'est l'activité de mouvements devenus visibles, ils existaient parfois déjà, mais devenus visibles dans les pays occidentaux, particulièrement dans les années 1970. Des mouvements qui ont attiré des personnes plutôt jeunes vers des engagements intenses, souvent dans un cadre communautaire. ça, si l'on discute aujourd'hui avec des personnes qui ont adhéré à cette époque-là à des mouvements religieux de ce type, l'idéal de la communauté est très frappant, beaucoup moins présent aujourd'hui. Mais adhérer à une communauté excitante de personnes du même âge, c'était quelque chose d'assez attirant. Et puis surtout, ces convertis ne présentait pas le profil typique de membre de « secte », entre guillemets, comme on se le représentait, parce que nombre d'entre eux étaient issus de classe moyenne supérieure, suivaient des études universitaires et abandonnaient tout, parfois très rapidement, pour sauver le monde en suivant un messie coréen ou un gourou indien. C'était l'époque où l'on commença à parler de Sun Myung-moon et de son église de l'unification, des dévots de Krishna, des enfants de Dieu, pour ne citer que les plus connus à cette époque-là. La soudaineté des conversions et la radicalité des choix surprenaient d'autant plus que la tendance semblait être plutôt à la sécularisation. Tous les chercheurs de l'époque prédisaient une société en voie de sécularisation, et cela, évidemment, nous savons bien que la sécularisation, c'est plus compliqué qu'un supposé abandon ou déclin de la religion, qu'un contexte sécularisé peut aussi s'accompagner d'effervescence religieuse, mais enfin, ça semblait contredire une perception d'un monde de plus en plus sécularisé, surtout des gens qui sortaient des établissements d'enseignement supérieur. On ne s'attendait pas à les voir embrasser de tels groupes. Et bien sûr, face à ces tournants inexplicables, bien naturellement, des familles inquiètes s'interrogèrent. Et elles commencèrent à prendre contact avec d'autres familles ayant rencontré de semblables expériences. D'abord, des familles dont les proches appartenaient au même groupe, et puis petit à petit, par analogie, des familles dont des proches avaient adhéré à d'autres groupes aux démarches également radicales. Et les démarches paraissaient donc incompréhensibles, et les proches interprétèrent ces changements soudains comme le résultat de manipulations psychologiques. C'est ainsi qu'on commença bientôt à parler de lavage de cerveau. Mais aujourd'hui, le terme est un peu passé de mode et on parle beaucoup plus de manipulation psychologique, même s'il est vrai que dans le langage courant, le langage populaire, l'image du lavage de cerveau, si problématique soit-elle, reste attrayante. Le lavage de cerveau, évidemment, c'est un concept assez délicat. On sait, bon, je ne vais pas entrer dans la généalogie du concept de lavage de cerveau, mais il est évidemment très parlant. Et c'est ainsi que virent le jour, mais dans un cadre privé à ce moment, de premières associations dites de défense, en France en 1974, en Allemagne et au Royaume-Uni en 1975, en Belgique en 1976, et ainsi de suite. Et ces associations échangeaient entre elles, ainsi qu'avec des associations similaires aux États-Unis. Et même si certains de leurs adhérents étaient des croyants, et même, par exemple, on sait que dans les associations de défense françaises, au départ, la part des catholiques était clairement surreprésentée, statistiquement, des catholiques engagés, même si leurs membres étaient des croyants, même si des collaborations existaient avec des représentants d'Église, ces associations se présentaient dans leur démarche comme laïques, séculières. Elles déclaraient se préoccuper d'un problème social et non pas vouloir combattre quelque hérésie. Et ça, c'est quelque chose de nouveau, parce qu'il existait déjà des associations chrétiennes avant de critiquer des sectes. Il pouvait exister une réaction spontanée, individuelle face à un groupe, mais c'est pour la première fois que émergent des associations qui se veulent séculières et qui critiquent globalement une palette assez large de groupes sans lien entre eux. Les gouvernements ne s'empressent pas de s'emparer du problème. C'est vrai qu'en France, par exemple, l'Association pour la défense des familles et de l'individu, ADFI, reçut une première subvention du ministère de la Santé en 1978, mais les gouvernements restent quand même assez prudents. Voilà, ils voient un problème social, des débats, et ils y prêtent attention, mais sans s'engager très directement. Et voilà que, ça c'est la première étape, le premier tournant, en novembre 1978, survint le drame du Temple du Peuple à Johnstown, dans la jungle de Guyana. Vous vous en souvenez, plus de 900 personnes, la plupart d'origine nord-américaine, qui perdent la vie dans un mélange de suicides et de meurtres. Il ne s'agissait pas, je le souligne, d'un de ces groupes qui retenaient l'attention des associations naissantes. En fait, Jim Jones lui-même se présentait dans ses convictions comme communiste et avait fait, paraît-il, un testament pour l'église. Et c'est bien à l'Union soviétique. Mais peu importe, cette affaire venait confirmer le sentiment que des sectes actes pouvait présenter un danger non seulement pour la santé publique, mais pour la vie même de leurs membres. Et c'est ainsi que dans les années suivantes, nous voyons apparaître de premiers rapports officiels. En Europe, provenant soit de ministères, soit de commissions parlementaires. Sauf erreur de ma part, le premier publié est un rapport allemand en 1980, à la suite d'une intervention parlementaire au Bundestag l'année précédente. En France, à vrai dire, en 1978, il y avait déjà eu à l'Assemblée nationale une demande d'une première commission d'enquête, mais on lui avait finalement préféré une mission d'information au sein de la commission des lois qui n'avait pas débouché sur une publication quelconque et qui... Lors du renouvellement du Parlement en 1981, disparu. Le débat autour des sectes, cependant, connu dans un pays comme la France, un nouvel élan avec la publication, en cette même année 1981, avec la publication du livre de Roger Hicor, « Je porte plainte ». Quand évidemment une personnalité publique dénonce les sectes, cela ne manque pas d'avoir un impact. Et c'est ainsi que l'année suivante, en France, le député Alain Vivien reçut la mission de préparer un rapport, remis au Premier ministre en 83, publié en 85. Il a fallu du temps jusqu'à la publication du rapport Vivien, mais sans être suivi d'effets particuliers. Dans la même période, il y a aussi un rapport néerlandais en 1984, fruit de 3 ans de recherche d'une commission parlementaire, mais le rapport néerlandais concluait que ces groupes ne présentaient pas un véritable danger. Et sinon, en dehors d'un court rapport parlementaire espagnol en 1989 et du rapport Cottrell au Parlement européen en 1984, aucun autre de ce texte de ce genre, sauf erreur, en Europe dans les années 80. Il restait concentré, ces rapports, sur quelques dizaines de groupes, des groupes réellement d'apparition relativement récentes. Voici cependant que dans les années 90, de nouveaux événements donnèrent un nouvel élan au débat. Je pense bien sûr en particulier à l'affaire de l'ordre du Temple solaire, le transit de l'ordre du Temple solaire, un euphémisme pour un mélange de suicide et de meurtre, le transit du Temple solaire en 1994 en Suisse et au Canada, puis en 1995 dans le Vercors, et un dernier effet en 1997, un dernier petit transit au Canada. À côté d'épisodes plus lointains dans cette période qui rendaient attentif à la dangerosité potentielle de certains groupes. Nous venons d'avoir le 20e anniversaire de l'attentat d'Aum Shinrikyo du gaz sarin dans le métro de Tokyo en mars 1995, une invraisemblable affaire criminelle parce que l'attentat au gaz sarin n'était que l'aboutissement d'une série d'autres activités délictueuses et criminelles. Et puis, va s'ajouter à tout cela ensuite l'approche de l'an 2000, avec une sorte de construction séculière de supposées peurs religieuses. En fait, l'approche de l'an 2000, disons-le clairement, c'était une crainte très séculière que nos ordinateurs cessent de fonctionner et que les automates bancaires refusent de donner de l'argent. Mais en revanche, dans l'opinion publique, à travers toute une série d'articles de presse, on s'est imaginé qu'il allait y avoir de nombreux groupes qui commettraient des suicides collectifs, des attentats, que sais-je encore. Et c'est vrai cependant que, comme l'a souligné un chercheur belge dans son étude de l'émergence d'un objet politique secte en Belgique, Benjamin Mine, il a raison de souligner que les interventions politiques ne sauraient être vues uniquement en termes de réaction politique à l'affaire de l'OTS, c'est vrai que c'est un déclencheur, mais il y avait en amont une problématisation de la dangerosité des sectes que l'événement semblait confirmer, parce que le débat se poursuit. Il y avait eu le rapport Hunt à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe en 1991 et surtout des associations privées étaient actives, se développaient, répondaient à des demandes de proches inquiets et trouvaient des relais dans les médias. Et là, il y a petit à petit une image négative et très problématique des sectes qui est intégrée dans la perception publique, en fait sans grand questionnement. D'autant plus que, en fait, très peu de gens étudiaient ces groupes. Donc, finalement, voilà, on a des gens, des familles, des proches, d'anciens membres qui se plaignent. Donc, leur récit est assez facilement accepté. Et surtout, ce qui frappe dans les années 90, c'est que le champ des groupes couverts ne cesse de s'étendre, comme en témoigne d'ailleurs le spectre des groupes considérés dans les rapports des années 90. Et bien sûr, alors il y a à la fois des problèmes réels autour de certains groupes, il y a aussi le fait que tout groupe d'une certaine taille va compter des adhérents déçus qui décident de rompre avec le groupe, qui adoptent une posture de victime, parce que ça c'est aussi important, c'est la construction du problème secte en tant que qu'un problème de victime, et il y a de plus en plus de catégories de victimes dans les sociétés contemporaines, et puis ils dénoncent leur ancien groupe, celui-ci se retrouve sur le banc des accusés, et évidemment le cercle des groupes suspects peut ainsi s'étendre constamment, et une fois étiqueté secte, il est assez difficile d'échapper aux soupçons. Alors je ne vais pas, parce que ça vous ennuierait, je ne vais pas énumérer en détail les réactions dans chaque pays, cela nous prendrait trop de temps. Pour mémoire, je rappelle en France le rapport Jay-Guyard en 1995, qui débouche sur la création d'un observatoire et des missions que j'ai évoquées, puis plusieurs rapports au fil des ans, la loi Abou-Picard de 2001 pour réprimer les abus d'ignorance et de faiblesse. Il y a eu d'ailleurs des lois similaires sur l'abus d'ignorance et de faiblesse adoptée en 2011 en Belgique et en 2013 au Luxembourg. Il faudrait aussi mentionner le rapport belge de 1997 et ses suites, le rapport de la commission d'enquête allemande de 1998, également la décision en Allemagne de confier au service de protection de l'État l'observation spécifique de la scientologie, pas des groupes en général, mais de la scientologie, le rapport d'une commission parlementaire fédérale suisse en 1999, un rapport italien des services de sécurité publique en 1998, un rapport suédois la même année, et puis encore, pour tout compléter, en Autriche, l'établissement en 1998 d'un centre fédéral sur les questions relatives aux sectes. Donc, les initiatives d'État ont répondu à des préoccupations de certains secteurs de la société, ainsi qu'à des événements médiatisés. Mais seuls quelques États ont conclu à la nécessité d'une réponse organisée et de mesures concrètes. La perception d'une nécessité d'intervention spécifique de l'État n'a pas été identique d'un pays à l'autre. Donc l'interprétation de ces phénomènes, les conséquences pratiques qui en découlent pour la responsabilité des autorités ne sont pas les mêmes. La majorité des pays européens n'ont pas développé ce qu'on pourrait appeler, pour faire court, une politique des sectes. Cela ne correspond peut-être simplement pas à leur modèle respectif de gestion des relations entre État et religion dans une société. Mais il faut aussi être très prudent avant de se hâter de généraliser sur des particularités nationales qui déboucheraient sur des attitudes spécifiques, parce que ça c'est par exemple une... Évidemment, c'est très tentant, il y a des auteurs, notamment nord-américains, qui ont écrit des livres, par exemple, sur la gestion des sectes en France, comme de nouveaux hérétiques face à la laïcité. C'est un petit peu plus compliqué que ça, parce que justement, comme nous le voyons, les initiatives, par exemple, d'établir un organisme à l'échelle nationale, quel que soit son statut, ont été en France, en Belgique, en Autriche, des gestions différentes des religions. Et puis il convient aussi de noter, même si c'est rarement exposé au grand jour, qu'il n'y a pas toujours eu et qu'il n'y a pas toujours unanimité dans les couloirs des administrations quant à la bonne voie à suivre. Ça, on ne doit jamais négliger. Quand on parle la France, la Belgique, l'Autriche, l'Allemagne, on essentialise, on crée une sorte d'abstraction, mais ça signifie qu'il y a aussi au sein d'administrations des tensions. Tout le monde n'a pas le même point de vue, la même approche. Il y a à la fois les événements particuliers qui peuvent déterminer des attitudes, et il y a aussi peut-être des personnes à certains moments qui occupent un rôle, et il y a toute l'émotion publique, bien sûr. Les réactions des États, elles varient aussi parce qu'il s'agit, à première vue, de questions religieuses, avec le risque de porter atteinte à la liberté de conscience et de religion. Quel que soit le système choisi pour gérer les relations entre État et religion, le principe de la liberté religieuse est acquis, de même que l'obligation pour l'État de ne discriminer aucune croyance. En Allemagne, à la suite de plaintes contre des publications officielles, la Cour constitutionnelle a estimé en 2002 que l'État avait le droit de s'exprimer sur des religions, sur leurs buts, sur leurs activités, même de façon critique, mais avec réserve et en s'abstenant de toute représentation diffamatoire ou discriminatoire. Donc ça, c'est important. Les décisions également de la Cour européenne des droits de l'homme le montrent. La non-discrimination n'empêche pas l'information. Enfin, ensuite, la question, c'est toujours de savoir gérer. Comment pouvez-vous informer, bien sûr, sur certains groupes, tout en respectant le principe de non-discrimination ? Nous observons donc une certaine réticence chez des acteurs tant publics que privés, mais en dehors des églises, à aborder les groupes critiqués comme des phénomènes religieux. Il y a insistance constamment sur le fait qu'on ne s'occupe pas des croyances, mais uniquement des pratiques et de leurs conséquences, avec parfois l'idée implicite que la référence religieuse sert à couvrir autre chose. Et cela, je crois, se reflète aussi dans le glissement de l'expression de secte à dérive sectaire dans l'espace francophone. Il ne s'agirait donc de combattre que les dérives. Mieux encore, d'ailleurs, le site de la Miviludes nous indique que la majorité des dérives sectaires qui lui sont rapportées actuellement ne concerneraient même plus des mouvements religieux, mais pourraient concerner, par exemple, des pratiques thérapeutiques ou que sais-je encore. Ce qui pose la question, bien sûr, de savoir, convient-il encore alors de parler de dérive sectaire, puisque l'adjectif renvoie quand même à la notion de secte, et à la notion qu'à des sectes serait associé un type de dérive spécifique. Je n'ai pas ici la possibilité d'entrer dans ce débat, mais j'ai évoqué dans certaines publications le brouillage du vocabulaire. Il y a une superposition de sens du mot secte, de la connotation originelle théologique, à la perception courante d'aujourd'hui qui ne se laisse que difficilement démêler. Et un chercheur français, Étienne Ollion, a très bien parlé d'un processus de sécularisation de la notion de secte, mais ce processus de sécularisation n'empêche pas que les significations précédentes restent en circulation. Donc on a là une sorte d'addition successive de différents sens qui se mélangent. Cependant, malgré des points de départ différents d'un État à l'autre, l'intégration européenne produit et continuera d'influencer un certain degré d'harmonisation des pratiques nationales, non sans réticence. Je pense ici notamment à la Cour européenne des droits de l'homme. Selon le chercheur belge Louis-Léon Christians, 20% de la jurisprudence européenne en matière de liberté religieuse concernerait des groupes qualifiés de sectes. Et c'est quelque chose qui ne surprend pas les personnes qui s'intéressent au phénomène de groupes religieux minoritaires. Aux États-Unis, par exemple, rien que la jurisprudence autour des témoins de Jéhovah a conduit à toute une série de précisions sur les limites de la liberté religieuse. Donc des groupes qui sont très actifs judiciairement, de petits groupes, peuvent contribuer de façon pas négligeable à façonner le paysage, ou plus exactement les formes futures de la liberté religieuse. Et pour la Cour européenne des droits de l'homme, je rappelle que la France, dans 4 affaires en 2011 et 2013, a été condamnée, c'est-à-dire dans des litiges fiscaux en l'occurrence impliquant des groupes religieux, notamment les témoins de Jéhovah, la France, ce sont les groupes qui se plaignaient qui ont eu gain de cause. Cela, vous le savez, en France, suscite régulièrement quelques phénomènes d'irritation. Le mois dernier encore, un quotidien français estimait que l'État, je cite, « aurait perdu la partie face aux sectes et n'aurait cessé de reculer ». Citation, sous la pression de l'Europe et des pays anglo-saxons partisans d'une approche plus libérale. Voilà, donc là, il y a des enjeux qui très vite deviennent des enjeux aussi d'approche nationale dans la gestion du religieux. Et bon, on le voit moins ces dernières années, mais au début des années 2000, il y avait eu des articles assez invraisemblables, il faut le dire. Je me souviens d'un titre de première page du Monde diplomatique, « Les sectes chevaux de Troie des États-Unis en Europe », ce qui n'était pas très loin, pour être franc, d'une sorte de théorie du complot. Mais toujours est-il que le thème des sectes n'est pas épuisé, même s'il y a cette tendance à travers disons, la jurisprudence européenne a une certaine standardisation européenne. Ça ne signifie pas que le débat autour des sectes est terminé. D'ailleurs, en 2014 encore, à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, un parlementaire français, M. Rudy Sall, a présenté un rapport sur la protection des mineurs contre les dérives sectaires. Et je suis certain qu'il suffirait de nouvelles affaires dramatiques pour que toute la polémique connaisse aussitôt, évidemment, un nouvel élan. Et l'extension du champ couvert par ce qu'on appelle les dérives sectaires fait que les organismes qui s'en occupent sont appelés à répondre à des préoccupations qui ne concernent plus seulement des groupes structurés appelant à des engagements de rupture. Il peut s'agir tout simplement de problèmes d'influence indue d'un individu sur d'autres, par exemple dans le cadre d'une relation thérapeutique. Et c'est tout à fait réel. On rencontre parfois des cas assez invraisemblables d'un thérapeute qui, à la manière d'un véritable guide spirituel, prend sur une personne tierce une influence indue au point de diriger sa vie. Ça n'est pas pour rien qu'il y a des codes de déontologie, évidemment, dans la pratique médicale, la pratique psychologique, etc. Je crois que les controverses nées dans les années 70 ont produit un modèle interprétatif qui met l'accent sur l'autonomie de l'individu face à tout ce qui pourrait le priver d'une partie de son libre arbitre pour le maintenir dans un état de sujétion psychologique ou physique. C'est d'ailleurs un peu le type d'approche qu'a choisi en France la Miviludes. Alors évidemment, il reste à voir dans quelle mesure l'adjectif sectaire est celui qui s'applique le mieux pour la description d'une telle situation, parce qu'on peut parler évidemment de suggestion psychologique, mais est-ce que réellement on a besoin d'y associer l'adjectif sectaire? Il faut dire que d'ailleurs, dans la loi Abou-Picard, le terme secte dans le texte de la loi même n'est pas utilisé. Ce modèle n'est guère discuté en dehors des milieux visés, car l'image même ou le stéréotype de la secte reste pour le moins, il faut le dire, négatif. J'avais vu en sondage cité par Blandine Chelli-Nippon dans un ouvrage sur la régulation religieuse en Europe, un sondage de 2003, 53% des Français estimaient que l'État ne devait pas intervenir du tout à l'égard des religions, mais 92% demandaient que l'État interdise les sectes. Donc voilà, je crois que c'est un peu la perception qui est assez répandue aujourd'hui, même si ensuite, par rapport à des groupes individuels, ça peut se jouer de façon beaucoup plus apaisée. Et d'ailleurs, quand je pense à une façon beaucoup plus apaisée. Je discutais avec votre présidente tout à l'heure du récent rapport du Sénat sur le financement des lieux de culte, et à côté des églises catholiques réformées, il y a question aussi des églises évangéliques, des témoins de Jéhovah, des mormons, d'une façon absolument neutre. On se soucie de leurs problèmes pour le financement des lieux de culte, comme d'autres groupes. Le modèle, évidemment, ce modèle de la dérive sectaire est en train de déboucher, et j'en arrive à ma partie conclusive, il est en train de déboucher sur de nouveaux emplois, parce que d'autres craintes se sont imposées au premier plan. Et elles expliquent d'ailleurs en partie pourquoi le thème des sectes n'est plus autant sur le devant de la scène qu'il y a une quinzaine d'années, par exemple. Et je pense, bien entendu ici, au 11 septembre 2001 et à ses suites. Dans les années suivant immédiatement le 11 septembre, il y avait eu quelques tentatives de montrer des similitudes avec les dérives sectaires, mais sans grand écho. Plus récemment, cependant, depuis que nous avons vu des personnes jeunes, et parfois très jeunes, quitter des pays occidentaux pour rejoindre des organisations djihadistes, eh bien, le modèle interprétatif des années 70, né autour de conversions radicales à de nouveaux mouvements religieux, a spontanément été repris pour expliquer l'inexplicable. Parce que foncièrement, derrière tout ça, il y a une volonté d'expliquer l'inexplicable. D'abord par des familles effondrées, pas nécessairement par les services officiels, qui en sont plutôt à s'interroger sur ces cas de radicalisation. Mais il n'en reste pas moins que les associations ou organismes s'occupant de sectes sont sollicités. Un peu partout en Europe, ils reçoivent des appels de familles qui se trouvent confrontées à ces questions. Et en France, c'est le cas de la Miviludes. Le président de la Miviludes s'en explique d'ailleurs dans un article récent, dans des termes qui reflètent à la fois des incertitudes et la reprise du modèle. Je cite, « L'amivilude n'assimile pas la radicalisation djihadiste à une dérive sectaire. Elle considère cependant que les signalements qui lui sont présentés peuvent s'apparenter à une dérive sectaire et qu'au moins un dénominateur commun avec la dérive sectaire existe, celui de l'emprise mentale. » Donc nous voyons en quelque sorte une reprise, une sorte de nouvel élan qui est donné à ce modèle de la dérive sectaire en l'appliquant dans cette logique des cercles concentriques que j'avais décrite encore à de nouveaux types de phénomènes et de groupes. Et je crois qu'il faut bien réfléchir. Je comprends parfaitement, évidemment, que pour des autorités confrontées à ce type de problème, il s'agit d'abord d'agir, d'essayer de réfléchir en même temps. Mais il y a des situations d'urgence, des situations très précises qui concernent des personnes. Mais il faut bien réfléchir aux modèles que nous utilisons. Ils ont des conséquences. Si, par exemple, un djihadiste, quelqu'un qui part combattre en Syrie ou en Irak, le fait par conséquence d'une emprise mentale, est soumis à une supposée emprise mentale ou a subi une suggestion psychologique, est-ce qu'il est encore pénalement responsable de ses actes? Est-ce qu'il porte encore, s'il est contrôlé, si on suppose qu'il est... Qu'est-ce que ça signifie, concrètement? Est-ce que ce sont des circonstances atténuantes? Et de plus, si je ne nie pas des analogies, je reste prudent avant de plaquer automatiquement sur tous ces cas le modèle tout près de la secte ou de la dérive sectaire. Parce que, ma foi, les adhésions fanatiques à des idéologies extrémistes ou totalitaires, pour des raisons qui peuvent varier d'un individu à l'autre, sont des phénomènes que l'histoire contemporaine nous a permis de rencontrer sans recourir à une grille explicative de dérive sectaire. Des causes qui révulsent la plupart d'entre nous peuvent devenir séduisantes pour certains milieux et certaines personnes. Dans son récent ouvrage « Radicalisation », Farhad Khosrokavar évoque par exemple finement la fascination pour le héros négatif qui se délecte de la crainte qu'il inspire. La fascination pour le héros négatif, elle n'est pas le fait de grandes masses de gens, mais il y a des gens qui ont une fascination pour le héros négatif, ces héros négatifs qui ensuite parfois commettent bien sûr des actes graves. Pour tout dire, ce n'est pas que ça m'ennuie foncièrement qu'on veuille appliquer à d'autres choses un modèle de dérive sectaire, même si je continue à penser que le vocabulaire est problématique et piégé, mais ce que je crains, c'est qu'en appliquant trop vite un modèle interprétatif de ce type, nous rétrécissions nos capacités d'analyse, nos perspectives d'analyse, au lieu de garder ouvertes des pistes multiples, d'autant plus que si nous parlons de secte, par rapport au grand public aujourd'hui, c'est largement associé à l'irrationnel. Et si c'est irrationnel, à la limite, il n'y a plus grand-chose à comprendre. Tout s'explique en termes de manipulation. Et bien entendu, la réalité rencontrée est infiniment plus variée, y compris chez les djihadistes, y compris dans toute une série de sectes même particulières. Ce n'est pas nécessairement la raison face à la déraison et la rationalité face à la bizarrerie. Quoi qu'il en soit, et quelles que soient ses perspectives futures et ses péripéties futures, le débat autour des sectes dans une acception sécularisée, tel qu'il a émergé dans les années 70, pour déboucher ensuite sur des initiatives de certains États européens, c'est une conséquence, c'est vrai, de nouveaux acteurs religieux sur notre continent, des acteurs religieux qui s'inscrivaient dans un environnement spirituel offrant des options de plus en plus variées. Certains groupes un temps controversés s'éteindront, d'autres s'intégreront dans le paysage religieux. Il faut aussi dire que parfois, quand on voit l'élément de pression sociale sur certains groupes, il y a des groupes qui réagissent de façon vive face à cette pression sociale, il y a d'autres qui le prennent comme occasion, petit à petit, de s'adapter, de se tempérer, etc. Mais tout est évidemment, c'est la négociation permanente entre une société et ses minorités. La variété des groupes et des choix spirituels ne diminuera pas, même si elle ne prendra probablement pas, dans la majorité des cas, la forme d'adhésion à des groupes très structurés et très hiérarchisés. Aujourd'hui, on a plutôt des quêtes spirituelles très atomisées. Inévitablement, il y aura, il continuera d'y avoir, pour différents types d'engagements, des proches inquiets, des adhérents déçus, dénonçant ce qu'ils avaient d'abord embrassé, et donc des controverses. D'autant plus que les nouveaux moyens de communication multiplient la possibilité d'y donner écho. Il est clair qu'avec Internet, même un individu peut donner écho à ses récriminations assez aisément. Parmi des centaines d'associations cercles et autres mouvements. Il se trouvera inévitablement des abus, des situations conflictuelles avec le cadre légal, des troubles à l'ordre public. Ou, tout simplement, l'intensité de débats publics autour d'un ou plusieurs groupes suscitera un intérêt politique pour ce sujet. Même à une époque où l'on pense pouvoir considérer de plus en plus la religion comme affaire privée, des États européens resteront confrontés à des situations dans lesquelles ils devront se pencher sur des questions autour d'acteurs religieux, parfois de taille très modeste. Mais en sachant, et ça évidemment les États ne doivent jamais l'oublier, que les mesures, les mises en garde qu'ils émettent par rapport à un groupe ont des conséquences pour des individus sur le plan personnel, conséquences sur le plan professionnel, par exemple. Donc c'est là que l'État, évidemment, a un devoir d'équilibre, parce qu'il ne s'agit pas de stigmatiser des individus simplement en fonction de leurs choix et de leurs engagements religieux. Et c'est une ligne qui n'est pas toujours si facile de suivre et de respecter. La variété des contextes nationaux continuera d'exercer une influence, mais les tendances récentes, c'est vrai, suggèrent que les réponses données pourraient progressivement se trouver de plus en plus influencées par un bagage commun européen. Mais quoi qu'il en soit, la ligne de conduite pour les États de droit est assez claire. Il s'agit à la fois de faire respecter le droit, en évitant toute stigmatisation, et de ne pas embrasser une attitude partisane qui conférerait à certains modèles explicatifs une hégémonie interprétative. Je vous remercie de votre attention.